Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Chanteuse américaine de rhythm and blues, Aretha Franklin est née le 25 mars 1942 à Memphis, aux États-Unis. Elle nous quitte le 16 août 2018 à Détroit. On l'appelait la reine de la soul. C'est l'une des plus grandes voix américaines de l'histoire. Tour à tour chanteuse de gospel, de jazz, de funk, de R&B. Elle est la première chanteuse à apparaître en une du magazine Time. Martin Luther King lui remet le Christian Leadership Award. Sa version de la chanson Respect d'Otis Redding est numéro 1 au Hit Parade en 1967. Une passion déchaînée, assimilée par la communauté noire à un chant revendicatif. Son œuvre a inspiré une grande partie des chanteuses modernes. Avec une carrière de près de 60 ans, elle demeure une artiste admirée et une référence pour la jeune génération américaine. Philippe Roisès et Rafik Zénine signent pour cette dernière émission de l'année Une vie, une œuvre, Aretha Franklin.
Congratulations, Mr. President.
Il est midi et 6 minutes exactement à Washington. Hier, Barack Obama vient de prêter serment. Le 44e président des États-Unis entre en exercice. Moment très fort, moment historique.
Aretha Franklin, une quête insatiable. Philippe Roisès, Rafik Zénine. À quelle plus incroyable consécration pouvait rêver la petite fille de Memphis qu'une invitation à chanter pour l'investiture en 2009 de Barack Obama à la présidence des États-Unis. À quelle plus incroyable consécration pouvait rêver la star de Détroit, celle-là même qui mit la recherche d'amour et de reconnaissance au cœur de ses obsessions. 45 années d'une incroyable carrière, 75 millions de disques vendus, 112 chansons classées au Hit Parade américain, de nombreux prix et honneurs, la reine de la soul est aussi la première artiste noire à vendre davantage qu'Elvis Presley.
We should be a Baptist. First of all, the first reason is because you've been born again.
What a temptation! What a charge!
Lord Jesus!
Aretha Franklin est née en 1942 à Memphis. À l'époque, le Tennessee est un de ces États racistes du Sud qui pratiquent la ségrégation. Memphis est la ville du blues, musique trouvant son origine dans les chants des esclaves cultivant le coton, du gospel, chant des Afro-Américains chrétiens évangélistes, et le lieu de naissance du Ku Klux Klan, ce mouvement de terreur à l'égard des Noirs. Nicole Bacharan, historienne.
La ségrégation est le système qui a succédé à l'esclavage, et ça veut dire que noirs et blancs, particulièrement dans le sud où avait lieu autrefois l'esclavage, doivent vivre d'une manière totalement séparée. Vous avez les quartiers noirs, les quartiers blancs, mais tout est séparé. Les écoles, les magasins, les orphelinats, les prisons, les cimetières, les cinémas, les parcs. Et non seulement c'est séparé, mais il y a supérieur et inférieur, c'est-à-dire que tout ce qui est destiné aux Noirs est de moins bonne qualité, est moins confortable. On risque des choses extrêmement violentes, des coups évidemment, le lynchage dans le pire des cas. Donc Aretha Franklin, elle naît dans le plus dur de la ségrégation, pendant la guerre. Et tout ça est d'une grande violence, pas simplement une violence morale qui est évidente, mais également une violence physique.
En 1944, la famille Franklin quitte Memphis pour Buffalo dans l'état de New York, puis rapidement Détroit, la ville de l'industrie automobile triomphante du Michigan. Comme beaucoup de Noirs, elle fuit ainsi le Sud pour gagner un peu de dignité et de meilleures conditions de vie matérielle dans les états du Nord. En effet, ces derniers ne pratiquent pas la ségrégation, du moins dans les textes de loi. Aretha Franklin est la fille de Barbara Seegers Franklin, une brillante chanteuse et pianiste de gospel, et de Clarence Lavone, dit C.L. Franklin, pasteur baptiste de son église, la New Bethel Church.
Franklin a deux parents, une mère qu'elle perd très jeune, puisqu'elle a 10 ans quand sa mère meurt.
Sébastien Danchin, biographe d'Aretha Franklin.
La mère d'Aretha Franklin est importante parce que je dirais que c'est un personnage en filigrane, c'est quelqu'un qui brille par son absence. C'est quelqu'un qui a disparu assez vite de sa vie, qui s'est séparé de son mari. C.L. Franklin fait partie de ces pasteurs éclairés qui ont une vision extrêmement large de la du christianisme. C'est quelqu'un qui est né dans un milieu extrêmement pauvre, plus que pauvre du Mississippi, du Mississippi rural. Et c'est quelqu'un qui s'est fait totalement, quelqu'un de très intelligent, qui s'est fait entièrement tout seul. Et il va devenir, dans les années 50, une voix majeure de l'Amérique noire.
Sermon de C.L. Franklin.
The man who had dared to criticize the altar of the temple. The man who had dared to challenge the system of procedure about the temple. And who had dared defy the Sadducees, the rulers of the temple.
Yes, sir.
Was now in a tomb.
L'éducation dans la famille Franklin, c'est un père qui est autoritaire. Il a une haute opinion de la manière dont on doit représenter cette famille auprès de la communauté. Donc il leur demande de se conduire comme il faut. Mais en même temps, il reçoit chez lui la chanteuse Dinah Washington, Billie Holiday. C'est pas du tout un prêtre castrateur. C'est au contraire quelqu'un qui est très ouvert sur le monde des arts, de la musique, du jazz. Alors à la fois, Aretha Franklin, elle a grandi en écoutant, bien sûr, en étant à l'office le dimanche. Mais en même temps, elle a rencontré tous ces gens-là qui sont passés dans la maison familiale. Et je crois que c'est cette ouverture d'esprit qui est très particulière et qui est absolument essentiel dans la carrière d'Aretha Franklin, parce que c'est ce qui fait qu'elle ait ces deux facettes à la fois, et ça, c'est l'héritage du père.
Je crois que mon père sentait que j'étais douée, que j'étais une enfant dotée d'un talent unique.
Aretha Franklin, 1988.
Il s'occupait de mes progrès, il me faisait écouter des disques pour voir si j'arrivais à les interpréter au piano. Je l'accompagnais dans ses déplacements quand j'avais 14-15 ans, pendant les week-ends. Et il me donnait $50 à chaque fois. Je chantais un ou deux morceaux et ça m'excitait énormément. Non seulement j'ai pu voir et écouter les plus grands du gospel, chanter avec eux, mais j'ai également rencontré des artistes de variété que j'aimais et dont j'achetais les disques pendant mon enfance et mon adolescence. Nous étions dans les mêmes hôtels. Et c'est comme cela que je les rencontrais.
Elle a commencé par chanter dans les tournées qu'organisait son père. Cela dit, assez rapidement, au moment de l'adolescence, elle a décidé qu'elle voulait pas devenir une chanteuse gospel professionnelle. Son but et son envie, et c'est une envie qu'elle gardera toute sa vie, c'est d'être une grande chanteuse de jazz. C'est dans ce domaine qu'elle a vraiment commencé quand elle a signé chez Columbia en 1960. Rock-a-bye, your baby with a Dixie melody. When you croon a tune from the heart of Dixie, and
just hang my cradle, man and mine. Right on that Mason Dixie line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the heart that's here. Weep no more, my lady. Sing the song for me. Hey, little Joe, just as though you had me on your knee. A million baby kisses I'm gonna deliver the minute that you sing that Swan River. Rock-a-bye.
Fin 1966, Aretha Franklin ne renouvelle pas son contrat chez Columbia, où elle se sent bridée, et signe chez Atlantic, où le producteur Jerry Wexler, créateur de la dénomination Rhythm and Blues, a une vision pour elle. Imprimer la transcendance du gospel sur une musique profane et populaire, entre blues et soul music.
Pourquoi ils veulent le faire ? Parce que depuis le début, il est persuadé qu'elle a un potentiel extraordinaire et que Columbia ne fait pas ressortir l'essentiel de ce qu'il y a chez elle, et en particulier ne fait pas ressortir dans son répertoire l'église. Alors il ne veut pas faire du gospel, il n'est pas question de faire ça, mais il a remarqué qu'elle avait un rapport de ferveur avec les interprétations de morceaux de gospel qu'elle a pu enregistrer, qui n'est pas présent ou pas assez présent à son goût dans les enregistrements de jazz et de soul qu'elle a pu faire chez Columbia jusque-là. Et en fait, non seulement il a une vision, il veut développer ça, et l'histoire lui donnera raison, mais en plus il pense qu'il y a un truc simple qui permettrait d'y arriver. D'abord, c'est important de bien choisir un répertoire et de la mettre entre les mains de bons musiciens, mais surtout il veut la mettre devant un piano. Parce qu'il a remarqué que quand elle était devant un piano, elle fermait les yeux et qu'elle se laissait vraiment emporter par la musique, comme elle le faisait quand elle était adolescente à l'église.
Aretha Franklin, 1999.
Jerry Wexler m'a suggéré de me mettre au piano et de voir ce qu'il en sortait. À partir de là, ma carrière a radicalement changé. Un virage à 180 degrés. J'ai une façon différente de m'accompagner au piano. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence.
Jerry Wexler, producteur, 1968.
Aretha. Aretha a poursuivi ce que Ray Charles avait commencé, la sécularisation du gospel. Prendre les mélodies, l'émotion, les rythmes du gospel et poser les mots du diable dessus.
C'est vrai que c'est la force du gospel mis au service d'un amour qui n'est pas divin mais charnel. Oui, c'est des gens qui chantent comme ça, qui ont cette force-là, qui ont ce pouvoir communicatif émotionnel-là, et qui, quand ils se mettent à chanter des chansons d'amour, intègrent cette dimension. Jerry Wexler a l'idée d'enregistrer Aretha Franklin sur ses terres natales, c'est-à-dire dans le sud. Ce qui est particulier, c'est que le studio est tenu par un sudiste blanc qui adore la musique noire, et la plupart des musiciens de l'orchestre sont des musiciens blancs qui travaillent avec des musiciens noirs et qui jouent aussi bien de la musique country que du gospel ou de la musique soul. C'est des gens qui ont cet univers sudiste ancré, je dirais, dans leur ADN. L'enregistrement débute bien et il se termine très mal dès le premier jour. Les gens s'accrochent les uns avec les autres. Il faut dire que Aretha Franklin est mariée depuis 1962 à un impresario qui a une dizaine d'années de plus qu'elle. Il paraît que le trompettiste aurait fait une réflexion sexiste et raciste à Aretha. Il le prend mal, le patron du studio s'en mêle.
Jerry Wexler,
Tout est devenu dingue, tout volait dans tous les sens. Bagarre, et cris, et retour à l'hôtel, porte qui claque. Si ça se trouve, il y a même eu des coups de feu. Alors elle a quitté la ville.
So when I got back to New York, I was terribly excited about it.
Lorsque je suis rentré à New York, je n'arrêtais pas d'écouter le titre enregistré, I Never Loved the Man. Et j'ai dit au distributeur qui attendait le premier 45 tours, on n'a toujours pas un disque, on a juste une face. Et je ne savais pas où était Aretha. Finalement, je l'ai retrouvé et on a fini ce disque. Pour moi, c'est une histoire fabuleuse.
Elle avait une voix magique, elle avait une voix puissante.
Didi Bridgewater, chanteuse.
Avec beaucoup d'émotion. Quand elle chantait, on se sentait, elle chantait avec les tripes. Et c'est une voix qu'on reconnaît instantanément.
C'est une lady, parce qu'elle a la classe. Elle chante de la soul. Bon, et puis c'est une reine. Elle est couronnée reine de la soul officiellement. Il y a un succès considérable qui va arriver pour Aretha Franklin et pas seulement sur le territoire des États-Unis. Le jour où elle enregistre un album de gospel en 1972, elle fait un album qui s'appelle Amazing Grace, bien sûr, qui est très connu, qui va être son album qui va se vendre le plus. Elle chante le gospel. On voit bien qu'elle n'a pas abandonné la maison. Son cœur, il bat à cet endroit-là, il bat à l'intérieur de l'église. Son père a toujours dit d'ailleurs qu'elle n'avait jamais quitté l'église.
Fin des années 60, la carrière d'Aretha Franklin s'inscrit totalement dans l'histoire de l'émancipation des Afro-Américains pour la reconnaissance de leurs droits, des femmes noires pour échapper au machisme du ghetto, et au-delà, de l'émancipation des femmes. Le racisme et la ségrégation subies par ses parents ne lui sont d'ailleurs pas inconnus. Yeah.
Aretha Franklin venant d'un milieu aisé, elle n'a pas grandi dans les cités comme Diana Ross qui va devenir Diana Ross. Elle n'a pas connu la même enfance que ces gens-là. Elle vient d'un milieu bourgeois et éduquée bourgeoisement, etc. Cela dit, la communauté noire, le ghetto s'est fermé par essence. Les gens se connaissent, c'est un monde qui est petit où les gens se connaissent, se fréquentent, se rencontrent. Donc c'est quelqu'un qui a très bien vu ce que c'était que la ségrégation dans le sud quand elle était en tournée avec son père, ce que c'était que la discrimination dans le nord qui est souvent plus insidieuse.
Aretha Franklin, 1999.
Well, it certainly was not what I was used to or accustomed to in Detroit, but on the other hand,
l'ambiance lors des tournées dans le sud n'était pas ce à quoi j'étais habituée à Détroit. Mais nous n'avons jamais été confrontés à des situations extrêmes. Il est arrivé qu'on nous demande dans les restaurants de nous installer tout au fond ou de ne pas utiliser les toilettes.
Le père, c'est avec le révérend Abernathy, le révérend King. Il fait partie de ces pasteurs éclairés qui ont une vision extrêmement, avec beaucoup d'acuité, une vision très nette de ce que c'est que le progrès social et le progrès social indispensable d'une communauté noire au sein d'une Amérique apaisée. Son point de vue, c'est que l'Amérique ne peut s'apaiser qu'à partir du moment où aura été traitée la question noire, et à partir du moment où les citoyens noirs seront véritablement des citoyens.
Martin Luther King, dans les années 50, c'est une figure, c'est un individu, c'est une personne exceptionnelle, de maintes manières. C'est une voix. It will not be the day of the black man, it will be the day of man as man. Il a une voix magnifique, il sait s'en servir, c'est un pasteur avec à la fois une formation très universitaire, mais aussi un talent de prêcheur, hein, avec une voix de baryton magnifique. Et puis c'est une vision, et sa vision c'est celle de la non-violence. Les plus grands succès des mouvements des droits civiques, ça a été des manifestations qui ont obligé les présidents, puisque ça a été successivement John Kennedy et Lyndon Johnson, à réagir et à s'emparer de cette question. Les grandes étapes, ça a été 1963. C'est là que John Kennedy a prononcé son discours à la télévision, disant que la race n'avait pas sa place dans la loi ni dans la vie américaine. Triomphe de Martin Luther King, le dernier, ça a été à Selma en 1965. Grande marche et qui a abouti à la loi sur le droit des Noirs, le droit concret et non pas théorique de s'inscrire sur les listes électorales.
Aretha Franklin, 1999.
Martin Luther King était un ami de la famille, un très bon ami de mon père. Parfois, il venait à Détroit et passait du temps à la maison ou dans l'église de mon père. J'ai suivi les premiers jours du mouvement des droits civiques et j'ai chanté pour lui avec d'autres chanteurs, auprès du révérend Jesse Jackson également.
À chaque fois que le révérend King l'appelait en lui disant « Est-ce que tu peux venir je fais un discours à tel endroit, je voudrais que tu viennes chanter un gospel avant, après, etc. » Elle a toujours répondu oui si elle était libre.
Thank you.
Aretha Franklin chante certains morceaux résonnant comme autant d'appels à la dignité, à la résistance et au combat. Ses chansons, devenues symboles, échappent en quelque sorte à sa célèbre interprète. La chanteuse n'a pas toujours mesuré la portée politique de paroles écrites par d'autres. D'après Don Covey, auteur de Chain of Fools, il s'agit d'un texte sur les esclaves des champs de coton. Aretha Franklin n'y voit que l'histoire d'une femme trompée et maltraitée par un homme dont elle cherche à briser les chaînes tout en l'ayant dans la peau.
Pour l'avoir rencontrée et avoir discuté avec elle, c'est pas quelqu'un de cérébral. C'est quelqu'un de très spontané, de très direct. C'est pas quelqu'un qui a une puissance de réflexion poussée. Elle cherche pas. C'est une femme intelligente. C'est pas un jugement de valeur. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'analyse, etc. C'est curieux que ce soit une figure féministe aussi importante, et elle est toujours considérée comme une figure féministe importante. Et je pense que c'est une figure féministe importante historiquement. Mais elle-même, elle n'est pas une féministe. Quand on l'entend parler du couple, elle dit « mais c'est à l'homme de diriger, c'est lui qui doit faire ceci. La femme, son rôle premier, c'est d'être mère de famille à la maison, etc. » Elle n'a pas un discours féministe du tout, faut pas se tromper. Donc c'est pour ça que l'œuvre, elle dépasse parfois l'intention du créateur. Et dans le cas d'Aretha Franklin, c'est flagrant.
Aretha Franklin, 1999.
Later times it was picked up as a battle cry by the civil rights movement. But when I recorded it,
plus tard, Respect est devenu un cri de guerre par le mouvement des droits civiques. Mais lorsque je l'ai enregistré, c'était plutôt une affaire de relations hommes-femmes, dans un sens plus général, entre deux personnes. Je vais te donner du respect et j'attends la même chose de toi en retour.
Ce que beaucoup ont retenu de l'Église,
Abel Lincoln, chanteuse, militante des droits civiques.
C'est le sentiment du respect. Dans les années 60, son enregistrement de la chanson Respect était en accord avec l'époque, car ce que les Noirs exigeaient du monde à ce moment-là, c'était le respect de la part des autres.
Mais
elle l'a focalisé sur l'homme et la femme.
C'est pas Bob Dylan. Je dirais que c'est le bon sens près de chez vous. Il n'y a pas une conscience politique, il n'y a pas une cérébralité politique. Mais il y a un bon sens du militantisme de tous les jours.
Une balle solitaire. Et ce jour-là, un prophète tombait à Memphis. Tandis que le sang de Martin Luther King se répandait, l'Amérique noire était en proie à la fièvre. En quelques minutes, sa colère, son désespoir éclataient d'un bout à l'autre des États-Unis.
L'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968 à Memphis constitue un véritable séisme. Il précipite la radicalité des discours et des actions dans une communauté noire se divisant sur la question de la violence. Le 9 avril, à l'enterrement du pasteur, Aretha Franklin chante son gospel préféré, Precious Lord, Take My Hand.
Aretha Franklin a toujours contribué à un certain nombre de causes. Elle a donné jusqu'à la fin de sa vie, elle donnait énormément pour les quartiers autour de chez elle, pour des églises, pour des écoles, pour des aides aux sans-abri. Elle a énormément œuvré en donnant de l'argent à des associations de défense des Native Americans, des Amérindiens. C'est quelqu'un qui a gardé une fibre qui était celle de son père. Elle a défendu Angela Davis quand elle a été mise en prison de manière injuste, etc. Elle a fait toute une campagne pour ça. Je crois que elle l'a défendue non pas par militantisme, je dirais, communiste, comme pouvait l'être Angela Davis, mais simplement comme femme qui est maltraitée par un système qui traite mal les femmes.
C'est un métier qui est très difficile.
Joby Valente, chanteuse.
Et c'est difficile de reprocher à quelqu'un de ne pas être resté, jusqu'au bout de son engagement. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de s'être calmé un peu, parce que c'est un sacrifice énorme, moi qui suis militante, je peux vous le dire, que de rester sur sa ligne, en droite ligne de ce que l'on a choisi, jusqu'au bout. Il faut du cran. Mais je crois qu'elle est restée quand même jusqu'au bout, une femme debout.
À partir de 1974, la carrière d'Aretha Franklin vacille. En pleine fièvre disco, des chansons comme Lady Marmalade, interprétées par le trio Label, la font désormais passer pour ringarde. Icône déchue, elle change physiquement, prend du poids. Mais pour la chanteuse, il faut rester une reine, susciter l'amour du public, pour toujours. Pourquoi un tel acharnement? Un début de réponse s'est peut-être esquissé lorsque sa mère a quitté en 1948 le foyer familial, laissant une petite Aretha se renfermer et s'effacer. Barbara Seegers Franklin décède 4 ans plus tard.
Elle a mal supporté le fait qu'elle ait un mari qui soit très volage et qu'en particulier il ait fait... pendant qu'elle était mariée avec lui, un enfant et une gamine de 14 ans. Donc je pense que ça a dû contribuer à ce qu'elle disparaisse très tôt. Pendant très longtemps, elle n'a jamais voulu parler de sa mère, elle n'a jamais voulu dire quelle était l'ampleur de cette blessure, c'en est une. On pouvait que faire des suppositions. Et puis, elle a publié des mémoires. Il est évident que ça a été un trauma très fort chez elle. Et toutes les femmes... qui se sont occupés d'elle, en particulier Clara Ward ou Mahalia Jackson, ont dit que ça avait été terrible pour elle à ce moment-là et qu'elle avait été très paumée. Dans la sphère, je dirais, amoureuse, elle a une prédilection, je dirais, pour les types qui la maltraitent. C'est pas pour rien que les victimes sont souvent très attachées à leur bourreau. Elle a une relation très dure avec son premier mari. Il était plus âgé qu'elle. C'était un hustler du ghetto. Les hustlers, c'est les personnages un peu grande gueule qui se débrouillent toujours bien pour vivre au crochet des autres d'une manière ou d'une autre. Souvent des gens talentueux d'ailleurs, mais pour qui c'est une façon de s'en tirer dans l'existence. Il est clair que Ted White a contribué au succès de sa femme, il en a énormément profité. C'est quelqu'un qui a été brutal avec elle, on le sait.
Gayeline McKinney, batteuse d'Aretha Franklin.
Lorsqu'on n'est pas heureux et qu'on ressent beaucoup de souffrance, parfois on fait certaines choses pour atténuer la douleur. Parfois, ce sera l'excès de nourriture ou autre chose. Toutes ces choses qui font se sentir mieux, qui procurent une satisfaction. Mais évidemment, ce sentiment ne dure pas. Si elle vivait ce genre de situation, c'est bien sûr parce que c'était une personne profondément blessée. Take me to heart, and I'll always love you. And nobody make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Makes willpower weak.
temptation strong.
Elle se retrouve à la une du magazine Time en 1968. Dans ce que Time décrit, il décrit une femme battue, qui baisse la tête, etc. Elle était battue, mais je ne crois pas qu'elle baissait la tête. Pas du tout. C'est quelqu'un qui rétorquait, qui se laissait pas faire. D'autre part, c'est quelqu'un qui avait un problème d'alcool, qui a un problème d'alcool depuis très jeune, et de tabac pendant très longtemps. Et oui, elle est alcoolique. Oui, elle a une tendance très certaine à la nonchalance et à pas être hyperactive. Elle a été tellement furieuse de cet article qu'il a présenté quand même comme une victime. Je ne crois pas que c'est le fait qu'on l'ait traité d'alcoolique qui l'a dérangé. C'est le fait qu'on l'ait présenté comme une faible. C'était pas une femme faible du tout. Elle déterminait énormément de choses. Elle était très dirigiste avec ses sœurs. Elle était très dirigiste avec son frère et sa belle-sœur. Enfin, c'était tout sauf une faible. En négatif, comme dans une photographie, c'est intéressant de voir aussi le rapport qu'elle a eu avec les hommes bien de sa vie. Ken Cunningham, qui a été le père de son dernier garçon, de Kelf, qui était un type très bien. Très rapidement, ça n'a pas été très très loin avec lui. Et son deuxième mari, Glinterman, qui est un acteur très doué, qui est un mec remarquable. Ils sont restés bons amis, etc. Mais je crois que ça lui convenait pas non plus. C'était un gentil, quoi. Alors qu'après, il y en a quelques-uns dont... auxquelles elle a fait allusion, qui n'ont pas été gentils avec elle et avec lesquels elle est restée en contact de manière extrêmement, extrêmement poussée. She's flesh and blood, just like a man.
If you wanna do that. I think there was a sadness. I don't know. I don't know what it was that.
Je crois qu'il y avait de la tristesse dans ce qu'Aretha Franklin chantait. Je ne sais pas ce qui contribue à cette tristesse, mais je pense qu'elle n'a pas été capable de concrétiser le genre d'amour, de relation qu'elle attendait avec un homme. Quand on est dans une position telle que la sienne, je suppose qu'il est difficile de savoir qui vous aime pour ce que vous êtes et qui vous aime pour ce que vous représentez et possédez. Peut-être que c'est une clé pour comprendre ce qu'elle mettait dans certaines de ses chansons, parce qu'elle ne trouvait pas le bonheur qu'elle cherchait.
De temps en temps, on sentait qu'elle était un peu taciturne, mais c'était pas quelqu'un qui riait aux éclats. Elle était comme elle chante. C'est une femme qui a eu des enfants, qui a enfanté très très jeune, qui... Et après, elle a eu des difficultés avec son mari. C'est une femme qui avait soif d'amour, qui était en mal d'amour. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, elle était dans l'alcool. Mais c'est une chose que l'on peut comprendre. On ne peut pas ne pas parler de sa vie. Et puis, lorsque l'on est un artiste sincère, un véritable artiste, il est sincère avec lui-même, donc il laisse parler son cœur, même s'il ne dit pas qu'il parle de lui-même. I'm in love. Yes, I...
L'un de ses anciens compagnons, Kenneth Cunningham, pense qu'Aretha Franklin ne sait pas choisir un homme. Dennis Edwards, du groupe The Temptation, qui a failli se marier avec elle, dira « Elle était la reine de la soul. Et je pense que parfois, elle voyait ses petits amis comme des serviteurs. » Plus tard, elle projette de se marier avec Willie Wickerson, son dernier compagnon, mais tous les deux y renoncent finalement. Si la femme ne comble pas sa quête, alors à défaut, la chanteuse cherche la fidélité du public et la reconnaissance du métier comme ultime preuve d'amour.
Je pense que c'est très difficile d'être tout en haut de l'affiche et de plus l'être. Et elle l'a été tellement pendant tellement longtemps qu'elle a pu avoir l'illusion, je pense que tous les artistes savent ça, que ça va pas durer. Mais elle l'a été pendant tellement longtemps qu'elle a eu du mal à accepter que d'autres puissent, qu'il puisse y avoir d'autres jeunes femmes, surtout qu'elle n'était pas si vieille que ça. Tous les ans, elle remportait le Grammy de la meilleure chanteuse de rhythm and blues, au point que ils appelaient pas ça le Grammy de la meilleure chanteuse, ils appelaient ça l'Aretha. Qui c'est qui a eu l'Aretha cette année? Bon, bah c'est Aretha. Bon, et pendant 6 années, je crois, de suite, elle l'a. Puis d'un seul coup, c'est quelqu'un d'autre. Ça lui fait tout drôle. Et puis d'autres qui lui disent, ah, mais on vous admire, on vous des jeunes femmes qu'elle a connues plus jeunes, etc. Qui lui disent, qui croient lui faire plaisir en lui disant, mais on vous admire énormément. Vous êtes comme une mère, comme pour nous. Et elle dit, attendez, je suis pas du tout une mère. J'ai 36 ans. Je peux te tailler des croupières n'importe quel jour, sur n'importe quelle scène. Et elle s'est engueulée avec la plupart de celles qui lui ont succédé. C'est une très mauvaise perdante. Hein.
Now you listen to me. I love you, but I'm the man and you are the woman, and I'll make the decision concerning my life.
You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
Oh, shut up, woman.
You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Let your mind won't let yourself be free.
C'est son apparition en 1980 dans le film à succès The Blues Brothers qui redonne à Aretha Franklin un coup de projecteur. Sa signature sur le label Arista relance sa carrière, mais malgré un lifting musical, le feu sacré s'éteint. Cédant à la facilité commerciale, elle enchaîne les duos prestigieux mais dispensables. Diva orgueilleuse et exigeante, de plus en plus colérique et imprévisible, sa paranoïa la pousse à se séparer de nombreux collaborateurs. Déjà, en 1977, Jackie Lombard, alors jeune productrice d'un concert parisien d'Aretha Franklin, avait eu un aperçu de ce dont la chanteuse était capable.
Waouh, c'était bien sûr une diva, une icône. Donc, elle représentait énormément. C'est pour ça que je me suis battue d'ailleurs. C'était un énorme pari. Et moi, je commençais. Donc, j'avais tout approuvé. Les contrats étaient signés, on avait réussi pour l'Angleterre et la France. Les Anglais m'appellent en pleine nuit et me disent, tout le monde est en smoking dans la salle. Elle est toujours pas là. J'ai commencé. Mais tout le monde, hein, j'ai dit, elle est pas venue faire de répétition. Ils disent, mais non, on l'a pas vue du tout. J'ai dit, vous n'êtes pas allé la chercher à l'aéroport? Mais non. J'ai dit, bah, attendez, et vous savez pas où elle est? Mais non. Je prends mon téléphone et j'appelle chez elle à la maison. Et j'ai un gamin qui me répond. Et je lui dis, je peux parler à ta maman? Et puis ma maman, elle dort aux États-Unis. J'ai après vite appelé ses avocats. Et j'ai dit, écoutez bien, je lui fous un procès au cul si jamais elle n'est pas là pour le concert de Paris. Après une grosse bagarre, il a fini par la persuader de prendre l'avion le lendemain matin. Elle est vraiment arrivée, chose qui a quand même étonné tout le monde, mais les Anglais étaient furax. Et c'était, je crois, le plus mauvais show de sa vie. Elle était très amoureuse, donc elle en avait rien à foutre de nous ni du concert. Donc elle s'occupait que de son mec. Elle voulait un peu se venger qu'on ait réussi à la faire venir, ouais. Alors elle avait envie de se venger tout le monde, ce que je trouvais pas très sympa. Ça a énervé un peu tout le monde. Finalement, elle est venue sur scène, mais pour nous faire tout ce qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire, on n'attendait pas, on attendait d'elle certains titres que tout le monde voulait. Elle les faisait pas, et après elle nous parlait que de son mec, comme si ça regardait la terre entière. Les gens ont hurlé, ont tous voulu quand même se faire rembourser. Ils n'ont pas vu le show qu'ils voulaient voir. On ne comprenait pas en plus, bon, comme c'était en anglais. Mais je pense qu'elle avait décidé de nous faire chier jusqu'au bout. Et c'est ça, être divin.
C'était une femme qui aimait les choses précises dans sa vie. Et puis, quand elle n'aimait pas quelque chose, elle disait ça. Et donc, tout le monde savait si elle aimait ou pas quelque chose.
Aretha Franklin, 2008.
Au début de ma carrière, ce fut un bon business pour certains, mais pas pour moi. Ça aurait dû en être un, mais j'étais assez naïve. C'était un bon business pour les autres. Au bout des quelques fois où des gens paient leurs impôts avec votre argent, on finit par se réveiller et apprendre le business.
C'est quelqu'un de très centré sur elle-même. C'est quelqu'un qui était très sûr d'elle, qui a commis énormément d'erreurs dans la gestion de sa carrière, de ses finances, etc., mais qui faisait tout elle-même, qui ne faisait pas confiance à grand monde. Je pense qu'elle a été la fille préférée de son père et qu'elle a une admiration incroyable pour ce monsieur. Et je pense que toute sa vie, elle a voulu être à la hauteur de cette mère qu'elle avait sublimée, fantasmé, et puis de ce père extraordinaire qui était un homme extraordinaire. C'est très curieux parce que c'est une diva et une ménagère, elle est les deux. Quand on la voit chez elle avec un tablier plein de taches de gras en train de faire à manger, c'est la ménagère de moins de 50 ans dont nous parlent les publicitaires, c'est vraiment ça. Et puis elle est capable de se transformer, et puis elle regarde les soap opéras à la télé, elle lit les trucs... les rubriques du cœur, etc., dans les magazines, etc. Bon, il n'y a rien de mal à ça. Hein, mais simplement, ce qui est intéressant, c'est les deux facettes. Et la seconde facette, qui est la facette de la diva qui, contre vents et marées, réussira à asseoir son image. C'est une reine, Aretha. C'est pas seulement la reine de la soul. Je crois que c'est quelqu'un qui avait un statut royal et qui en avait la conviction. C'est un peu la reine de Blanche-Neige. Hein. Elle a tendance à regarder le miroir tous les matins en disant je suis la plus grande.
Aretha Franklin était une personne douce et généreuse. D'un autre côté, c'était quelqu'un de très fier. Donc, parfois, il fallait savoir faire attention à ce qu'on disait. J'ai l'exemple d'un gars très sympathique qui fut son guitariste. Nous donnions un concert au Festival du film de Tribeca et Aretha Franklin était très jolie ce jour-là. Et là, le guitariste a dit « Tu es très embottée ce soir ». Et il a ajouté « Je pense que tu n'as jamais été aussi ravissante ». Dire cela à Aretha, je savais que c'était la porte ouverte aux ennuis. Elle lui a dit « Manifestement, tu n'as pas passé assez de temps avec moi pour me dire cela ». J'ai tout de suite compris que ce serait la dernière fois que je verrais ce guitariste. Et j'avais raison. Au concert suivant, il n'était plus là. C'était quelqu'un de très fier, et elle n'aimait pas se retrouver dans une position qui pouvait la ramener à certains de ses complexes, la mettre mal à l'aise. Lui dire cela, c'était la mettre en face d'elle-même, la rendre consciente de ce qu'elle était devenue physiquement. C'était une personne très sensible. Mais ça, c'était l'autre facette d'Aretha Franklin, moins sympathique, je dirais. Elle vit sa musique avec beaucoup de passion. Et si elle n'était pas jouée correctement, vous n'étiez plus au casting du concert suivant. Je l'ai vu de mes yeux.
And something happened at the show.
Le premier concert durant lequel j'ai joué pour elle n'était pas mal, mais elle entendait tout, la moindre hésitation, alors je ne pense pas que le public s'était aperçu de quoi que ce soit. Au concert suivant, deux semaines après, le groupe n'était plus du tout le même. J'étais la seule de la formation du concert précédent. Le groupe au complet était nouveau, à part moi. J'étais estomaquée.
She was her own boss. No one did anything without.
Pour moi, elle représente un exemple d'inspiration parce qu'elle était son propre chef. Personne ne faisait quoi que ce soit sans sa permission. Non, elle n'autorisait personne à prendre des décisions à sa place. C'est sans doute parce qu'elle a été souvent abusée qu'elle avait décidé de contrôler totalement ses affaires. Pour moi, elle pouvait constituer un exemple pour les femmes. Les inciter à devenir leur propre patron, à prendre en main leurs propres affaires.
Aretha Franklin.
Diva.
2008.
One who is very grand. One who has major credentials.
Une diva, c'est une personne majestueuse. Avec de grandes exigences, réputées difficiles, ce genre de choses.
Prima donna.
Une première dame.
That kind of thing.
Je pense que je peux être ainsi, mais uniquement lorsque quelqu'un a été déloyal avec moi. Après ça, je peux jouer moi aussi ma partition. Mais je préfère être celle que je suis, faire ce que j'ai à faire et pas me la jouer star.
Depuis 2000, Aretha Franklin est atteinte d'un cancer du pancréas. Lasse de le cacher, elle jette sa perruque dans le public lors d'un concert en 2014. Trois ans plus tard, celle qui disait « Je ne prendrai jamais ma retraite » annonce la fin de sa carrière. Elle décède l'année suivante, en 2018.
Aretha Franklin était une fervente croyante. Franchement, je dirais que Dieu est resté à ses côtés. Normalement, les gens qui ont un cancer du pancréas partent très vite. Aretha Franklin avait un cancer du pancréas et elle a vécu avec durant 8 ans. Elle était très croyante et ça l'a sans doute aidée à rester debout tout ce temps.
Devant la New Bethel Baptist Church, de plus en plus de fleurs, de ballons, de petits mots écrits à la main et cette sono qui, toute la journée, a joué du Aretha Franklin que les fans reprennent en chœur. La Cholna est venue avec sa fille de 10 ans, Leslie, pour lui expliquer tout ce qu'Aretha Franklin avait représenté pour elle.
She was everything.
Elle était tout pour moi. Quand j'ai eu des difficultés familiales, sa chanson « A Rose is Still a Rose » m'a aidé à avancer. Ça m'a donné de la force. Je l'aimais beaucoup. Et puis, vous savez, tous les chanteurs connus originaires de Détroit sont partis. Mais elle, elle est restée ici, à la maison. Et je la respecte pour ça.
Pour moi, sa disparition était une énorme perte. Parce que pour moi, sa musique signifiait une partie de ma vie, de mon adolescence, et qui était importante. Donc, elle m'accompagnait, si vous voulez, dans mon adolescence. Pour moi, c'était une énorme perte. C'était une femme qui pouvait être assez généreux comme elle pouvait être obstinée et même méchant. À son décès, elle avait demandé avant de mourir, elle avait fait une liste sur les artistes qu'elle a voulu chanter pour ses obsèques. Et voilà, elle avait demandé que je chante. Et ça aussi, c'était un énorme honneur pour moi. Parce qu'on a, elle s'est fâchée contre moi à un événement. Et puis après, je me suis dit, ah, peut-être, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas d'où sa colère est venue. J'avais dit, bon, évidemment, je suis maintenant de mauvais côté d'Aretha. Et puis, donc j'étais un peu étonnée quand sa famille m'a appelé pour me demander de chanter, de faire partie de ses obsèques.
Toute la vie d'Aretha Franklin, c'est une forme de recherche d'amour. Je pense que l'absence de sa mère, ça a été très difficile. Son père est mort dans des circonstances très difficiles aussi. Il a été victime d'une agression, il est resté ensuite dans un espèce de coma pendant des années. Pour elle, ça a été absolument terrible. Ensuite, elle a vu ses sœurs et son frère disparaître les uns après les autres, sa cousine, etc. Enfin, il y a une hécatombe terrible autour d'elle. Elle a passé sa vie à faire des deuils. Et je pense que, évidemment, la consécration, c'est une façon, c'est un pied de nez à la mort, hein, aussi. Qu'on donne son nom à une rue à Détroit, etc., de son vivant. Ça arrive généralement aux morts, mais quand on le fait de votre vivant, ça veut dire que vous êtes éternel, quelque part. Mais elle l'est, je veux dire, de son vivant, elle est devenue une figure incontournable. Ce qui était très particulier au moment de ses obsèques, c'est que c'était pas les obsèques d'une chanteuse, d'une grande chanteuse. C'était les obsèques d'une figure historique.
Le jour du décès d'Aretha Franklin, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, tweet : Aretha a aidé à définir l'expérience américaine. Au travers de sa voix, nous pouvions sentir notre histoire, entièrement et dans toutes ses nuances. Notre force et notre douleur, notre lumière et notre part d'ombre, notre quête de rédemption et de respect que nous avons durement gagnée. Que la reine de la soul repose éternellement en paix.
I've still got to find out who and what I really am. I don't know yet. I'm trying to find the answer.
Je cherche toujours qui je suis vraiment. Je n'ai pas encore la réponse. J'essaie de la trouver.
C'était Aretha Franklin, une quête insatiable. Archivina, Gwen Michel. Prise de son, Yann Fressy et Alia Housseini à Mayotte. Traduction, Bertrand Richard. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard, avec la collaboration de Daphné Abgral. Réalisation, Rafik Zénine, un documentaire de Philippe Roisès.